le 6-9 du week-end sur France Inter.
Vous en parliez à l'instant, Alain Baraton, la mort hier soir de Pierre Rabhi. Karine Bécard, vous recevez ce matin à ce propos deux invités. Françoise Vernet, présidente de Terre et Humanisme, et notre confrère, ami, producteur à France Inter, spécialiste des questions environnementales, Denis Chessou.
Bonjour Denis Chessou.
CO2 mon amour.
Bonjour Karine, bonjour cher Eric, bonjour à tous.
Et bonjour Françoise Vernet.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour nous faire partager et nous faire revivre vos souvenirs de Pierre Rabhi, immense figure, figure pionnière en France, de l'agroécologie et de tant d'autres choses, et qui nous a effectivement quittés hier à l'âge de 83 ans. Pierre Rabhi, c'était aussi un sourire, un regard, une douceur. Il avait été le fondateur du mouvement Colibri et l'inventeur de l'expression « la sobriété heureuse ». On va bien sûr revenir sur tout cela ce matin. Mais d'abord, et je me tourne vers vous, Denis Chessou, on connaît votre émission « CO2 mon amour » diffusée chaque dimanche sur France Inter. Vous connaissiez bien Pierre Rabhi, c'était un ami que vous aviez rencontré pour la première fois il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Il faut commencer par rappeler qui était Pierre Rabhi, un homme qui a passé sa vie entre la France et l'Afrique et qui avait lui-même cette double culture.
C'était un homme en fait qui était né au port du Sahara, donc dans le sud algérien, dans un îlot absolument de verdure, et que le travail des hommes, et on va dire la puissance de vie, ont permis donc... après de transformer en oasis. Et ça, c'était quelque chose qui l'avait fasciné. C'est-à-dire qu'il était en même temps un homme de la sécheresse et c'était aussi un homme donc du miracle de l'eau. C'était ça, Pierre, avec une double culture, vous l'avez dit, parce que donc il est né dans dans l'islam, et puis après donc effectivement il est devenu donc chrétien parce que il a dû partir parce que ses parents ne pouvaient pas le nourrir. Donc ensuite il est parti.
Voilà, il a eu des parents adoptifs français. Ouais, c'est ça, puis il a exactement. Même fini par franchir la Méditerranée, arriver à Paris.
Et alors il arrive à Paris et puis donc autour d'une vingtaine d'années. Donc il va être aussi donc il va se retrouver dans une usine. Il se dit mais ça c'est vraiment pas pour moi, cette aliénation je n'en veux pas. Et alors c'est un véritable pionnier, on va dire, du néo-ruralisme, ça dans les années 1960,
bien avant l'heure.
Mais oui, parce qu'en fait c'est ça, c'est aujourd'hui on a ça aujourd'hui, mais voilà. Donc on le voit, il arrive en Ardèche à la Blachère, dans cette ancienne donc magnanerie, donc on est face aux Cévennes, et là il expérimente. C'est-à-dire que Pierre, c'est toujours quelqu'un qui en fait disait ce qu'il faisait ce qu'il disait, et il est, alors c'est pas forcément l'inventeur de l'agroécologie, mais en tout cas il a sacrément popularisé, c'est-à-dire de régénérer donc les milieux naturels sans engrais, sans pesticides.
Voilà, on utilise ce mot-là depuis le début de la matinée, l'agroécologie. Expliquez-nous quand même un peu précisément ce que c'est.
C'est en gros c'est ça, c'est-à-dire on régénère donc les milieux naturels sans engrais, donc sans pesticides. On fait avec la nature, c'est-à-dire on se dit c'est une alliée, on ne vit pas hors sol. Ça, c'est le grand truc, en fait, de Pierre Rabhi.
Et alors, où est-ce qu'il trouve cette intuition-là? Pourquoi il pense à ça?
Il pense à ça.
Alors qu'à ce moment-là, on n'est pas du tout dans ça, quoi.
Non, on n'est pas du tout dans ça, puisqu'on est dans le règne, évidemment, de la chimie triomphante, et qui l'est d'ailleurs toujours aujourd'hui, il faut quand même bien le dire, ce qui le désespérait quand même tout à fait gentiment. Il trouve ça parce qu'il observe, parce que c'est un homme, au départ, si vous voulez, qui regarde le sol. Il me disait, on ne doit jamais désespérer d'un sol. Donc lui, il voulait démontrer qu'une terre revêche pouvait être parfaitement fécondée, la rendre aussi meilleure qu'on l'a reçue, parce qu'il y a aussi une dimension spirituelle chez Pierre Rabhi.
Alors il va vouloir partager ce savoir avec tout le monde, dans le monde entier. C'est notamment l'ambition de Terre et Humanisme, une structure que Pierre Rabhi a imaginée il y a une dizaine d'années et que vous présidez aujourd'hui, Françoise Vernet. Racontez-nous, pendant ces 10 années passées à ses côtés, qu'est-ce qu'il vous a apporté, Pierre Rabhi ? Françoise Vernet,
Oui, je vous entends. Terre et Humanisme a été créé en 1994, donc ça fait 27 ans en fait. Ce que Pierre m'a apporté pendant toutes ces années, c'est à la fois cette écoute, mais c'est aussi cette compréhension et cette adaptation. Moi, j'étais avec Pierre en 2010, on était au Burkina Faso, qui est un pays qu'il a bien connu, puisqu'au début des années 80, il a commencé à accompagner des paysans burkinabés, jusqu'à sa rencontre avec Thomas Sankara, et puis une amitié
le président
et Pierre était pressenti pour être secrétaire d'État à l'agriculture au Burkina, donc pour vous dire comme ses actions sur place avaient marqué.
Mais dites-nous ce qu'il vous a apporté à vous.
À moi, ce qui m'a apporté, écoutez, beaucoup de simplicité, de sobriété, de compréhension de ce que la nature nous apporte, comment il faut en prendre soin, comment il faut être on va dire également prendre soin des humains. Je pense que dans l'agroécologie qu'il a partagée avec nous et qu'on essaie de diffuser, on est vraiment dans cette idée-là, c'est prendre soin du vivant sous toutes ses formes.
Mmh. Alors il a essayé effectivement d'expliquer, d'enseigner, de répandre partout cette agriculture du pauvre, comme il l'a appelé, cette science qu'il avait acquise de la terre, c'est de la décroissance. Françoise Vernet, pourquoi est-ce qu'il n'aimait pas ce mot-là, décroissance? Parce que finalement quand même c'est ça.
Bah parce que je pense qu'il était plus inspiré par des mots comme sobriété, comme frugalité, comme modération. Il avait bien compris que la société dans laquelle on vivait, il fallait savoir s'adapter, il fallait savoir expliquer. Il a passé sa vie en conférence à essayer d'expliquer tout ceci. Je pense qu'il était très concerné de voir que l'humain pillait une planète qui n'avait pas des ressources illimitées. Mmh. Et voilà, et donc la sobriété heureuse, c'était vraiment... quand il a réalisé que dans nos sociétés dites, on va dire, développées et riches, finalement, la joie et le bonheur n'étaient pas forcément présentes et qu'on prenait beaucoup d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et tout ça l'interpellait beaucoup.
Et le désolait sans doute.
Oui.
Denis Chessou, je parlais à l'instant de la science que Pierre Rabhi avait acquise de la Terre. Est-ce que c'est excessif d'utiliser ce mot science? Ses détracteurs, en tout cas, lui contestaient ce mot-là.
Bah, il ne se prenait pas forcément du tout pour un scientifique. C'était simplement un observateur, comme je l'ai dit.
Un intuitif.
Un intuitif aussi. Et puis, il essayait. C'est-à-dire que ce qui était formidable, c'est que sur un sol donc, qui était quand même bien pourri au départ, c'est ce qu'il disait, on ne doit pas désespérer donc, d'un sol. Et il a réussi donc, à faire en sorte que les lombriques deviennent ses amis. Et puis il avait une très jolie formule, quoi. Il rappelait que les mots à la fois humilité, ce qui lui correspondait parfaitement, humanité et humus, ont donc la même racine. Et c'est vrai que cette sobriété heureuse a été très importante, parce que c'était quand même l'insurrection des consciences qui était derrière. Il avait très bien pigé qu'il fallait pas prendre le mot de décroissance, que de toute façon ça passait pas. Mais il était très à la fois très socratique, et puis donc il suivait un peu les préceptes de Gandhi, qui disait « soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Mmh. C'était ça aussi qui nous a appris donc Pierre Rabhi.
Alors il était très adulé. Comme je le disais, il y avait quand même aussi des contestataires.
Ah ben
il était
sûr.
Critiqué pour avoir des positions sociétales conservatrices. Vous qui l'avez fréquenté de près.
Non, alors moi, bon, ce que je veux dire, je suis pas là pour être du tout son avocat. Je dirais que entre le faire passer pour un réac de la terre, ardéchois et homophobe, et évidemment militant de LGBT, il y a quand même de la marge. Bon, ok. Donc là-dessus, il n'était pas très au point sur les réseaux sociaux, quoi. Il pouvait pas avoir une pensée, si vous voulez, en 140 ou en 200 signes, c'était pas possible. Mais le gars n'était pas du tout homophobe. Ça a jamais été son combat. Je trouve qu'aujourd'hui, d'ailleurs, effectivement, si quand les gens qui le critiquent, ils ont raison de le faire, parce que c'est leur boulot. Enfin voilà, s'ils ont envie de le faire, mais ils le font. Mais s'ils font le centième de ce que cet homme nous a apporté, ce serait déjà pas mal. Et qu'à mon avis, si vous voulez, les pensées réactionnaires actuellement sont bien florissantes et qu'il y a à mon avis d'autres combats donc à faire passer.
Bon, le message est passé. Françoise Vernet, un dernier mot. Comment faire vivre aujourd'hui cet héritage de Pierre Rabhi? Qui va reprendre le flambeau?
Il n'y a pas de flambeau à reprendre. Pierre a semé des graines un peu partout. Il nous a transformés en colibris. Et nous allons chacun faire notre part là où on se situe. Je pense que c'est ça la puissance de la parole de Pierre. C'est d'avoir éveillé des consciences, des personnes qui ont envie aujourd'hui de prendre soin de la planète, qui pensent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et qui souhaitent peut-être vivre une vie plus sobre, plus heureuse et plus en conscience.
Mmh. Denis Chessou, il n'y a pas un successeur, il y a des successeurs donc, à
Pierre Rabhi. Oui. Bon, il était la même famille, on va dire que alors là, que mon très grand ami qui était Jean-Marie Pal, c'est évident qu'ils étaient sur la semaine brisée. Mais ce côté, je fais ma part. Ce qui est très important, c'est que ça veut dire si je fais moi ma part, ça veut dire qu'après je suis légitime pour aller secouer les élus, pour aller secouer l'État, pour aller secouer les entreprises, pour les sommer de faire leur part. Donc il y avait aussi un peu de désobéissance civile chez Pierre Rabhi.
Merci à tous les deux, Françoise Vernet, présidente de l'association Terre et Humanisme, et Denis Chessou, qu'on retrouvera avec bonheur, comme chaque dimanche après-midi 14 heures, à 14h, bien sûr, dans CO2, mon amour, sur France Inter, évidemment. Je vous souhaite à tous les deux une excellente journée.
Et puis je signale qu'à partir de 10h ce matin, Eva Bester va rediffuser, elle aussi, l'entretien qu'elle avait réalisé avec Pierre Rabhi pour son émission à l'époque, Remède à la mélancolie.